qui nous a tous manqué dans les lanceurs d'alerte, c'est peut-être que on ne donne pas un horizon assez précis de à quoi pourrait ressembler le monde de demain.
CO2, mon amour.
Peut-être que nous n'avons pas suffisamment utilisé nos crayons de couleur pour dessiner l'horizon de demain.
Avec Denis Chessoux.
Ceux qu'on caricature comme étant des écologistes, avec parfois ce petit soupçon de mépris ou d'ironie, bah, d'abord reconnaissons aux écologistes, et bien avant moi, que si on les avait écoutés, notamment au moment du Club de Rome, on ne serait pas dans cette situation aussi critique.
Sur France Inter.
Eh ben oui, mais il faut évidemment du temps. Bonjour à tous, bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement. La nature, et donc vous l'avez compris, les vagues et les embruns qui vont chuchoter à vos oreilles. À la technique aujourd'hui, Christian Gratalon. Nous avons préparé l'émission avec Thomas Lehété, Camille Blanès, et c'est Xavier Pessugia qui la réalise. Et qui débute toujours par une petite humeur. Parce que je sais bien, la préoccupation principale de pas mal de nos concitoyens, c'est de bouffer de la raclette. Alors, les statistiques sont absolument formelles, même que les vaches ne savent plus où donner du pis ou de la pâte pressée non cuite. Comme quoi, vous leur dites d'avaler du confit à travers de délicates publicités, eh ben non, c'est la raclette dans le peloton de tête. Et si ça fait du bien au moral et aux hanches, eh ben après tout, tant mieux. Alors ailleurs, c'est un peu moins joyeux, parce qu'elle traîne son désarroi dans la rue, fait ployer le regard vers le sol, devient un discours médiatique. Son nom, eh ben la faim et le manque de nourriture. Et sa copine, la pauvreté, qui glisse sur le toboggan de la misère. Alors on la croise dans les cajots de fin de marché, dans les poubelles vertes avec des dates de vie périmées. Alors on donne, oui, au siècle dernier, on appelait cela la charité, aujourd'hui c'est l'entraide, le sentiment de faire ce que l'on peut pour maquiller notre honte intérieure, de vivre dans un pays riche. Et à un mois de Noël, peu de miracles, de multiplication des pains, alors aidons, on les a soutenus vraiment sur France Inter aussi, si nous le pouvons, donc les associations. Sur le front de l'environnement, pendant que le gouvernement détricote gentiment les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, d'ailleurs le président va s'exprimer là-dessus cette semaine, le Conseil d'État met les pieds dans le réchauffement après la saisie de la commune de Grande-Synthe qui risque de se retrouver les pieds dans l'eau vite fait. Le gouvernement doit justifier sous 3 mois que la trajectoire de réduction de 40% à horizon 2030 de nos émissions de gaz à effet de serre pourra être respectée. Autrement dit, la com, même avec un budget en hausse, c'est bien, mais les actions plus musclées, c'est quand même mieux. Même s'il s'agit d'une trajectoire et non d'un objectif, c'est quand même un acte tout à fait important qui montre que les collectivités en tête, les ONG, le juridique, les jeunes, les citoyens peuvent infléchir les lignes du business réchauffant comme avant. Alors tenez, à Radio France, là aussi, bonne nouvelle. Nous empruntons la voie de la cohérence. Je m'explique. Notre groupe s'engage à diffuser des publicités plus responsables et plus vertes. Bon, je vous le dis, c'est vrai qu'on n'a pas été trop regardant à une époque. On a bien donné dans le climaticide. Les pubs pour les banques et les grosses bagnoles juste avant ou après CO2 mon amour, ça, j'ai bien connu. Il y a 30 ans, votre serviteur était un zombie, puis après est devenu caution, seul à vous parler d'environnement en France à la radio. Aujourd'hui, Radio France peut vraiment être fière de ses 27 heures de programmes de qualité sur le sujet, avec entre autres chez nous, bien sûr, notre terre au carré. Cela dit, un jour où il existera un SUV de 1,5 tonne, fonctionnant à la graisse de confit de canard recyclé, on sera bon. Oui, ça vous fera 2 publicités en une, et youpi. En attendant, c'est quoi l'avenir? Confiné, déconfiné, reconfiné, finir con, confidois, surconfiné, yo-yo psychique et méthode de gouvernance avant de servir de cobaye pour le vaccin nouveau qui arrivera après le Beaujolais. L'avenir, c'est quand c'est quoi? Quand on a 20 ans. Alors dans ce moment de grande gaieté collective, les laboratoires vendeurs d'antidépresseurs et la FDJ sablent le champagne, jeu de hasard en hausse pour gratter son anxiété. Alors le soleil, lui, s'interrogeait. Écoutez, venez à moi, faites-vous du bien. Vous pouvez même soutenir mon regard avec mes jours courts et mes ombres longues. Faut juste un peu quitter les séries affalées sur le canapé. Je suis le meilleur des médocs, vous savez. Je fixe votre vitamine D. Je suis excellent pour l'esprit, pour vos défenses immunitaires. Mais ça, évidemment, on entend quand même très très peu parler. Mais il faudrait pouvoir sortir plus d'une heure par jour. Novembre était désolé de tout cela. Et souhaite vous offrir, pour rien du tout, ou pour tout, les belles joues, les belles couleurs cuivrées de ses joues, les lumières rasantes de son soleil qui savent jouer le matin avec les premières gelées dans le fouillis de l'églantier. » Alors je vous l'ai dit, ces propos vont peut-être faire aussi écho à ce que va nous dire donc Nicolas Hulot. Demandez le programme, demandez la lune, non, juste Hulot sur la plage de Saint-Lunaire.
Vem me abraçar, eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixei lá o peso no meu coração, deixei pra lá o gosto da ingratidão, deixei pra lá sua frieza, deixei pra lá triste beleza, deixei pra trás todo medo se desfaz, deixei pra trás meu caminho é de paz, fechei teu olhar tristonho, fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me apressar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem.
Mélodie Gardot, dont une américaine, donc a été nourrie au jazz, à l'acoustique, et aussi à des accents brésiliens sur France Inter dans ses hauts de mon amour.
Bonne aille ! Bonne aille ! Allez, viens, hop !
Allez, hop ! Allez, le chien !
Ça va, les bottes ?
Ouais, c'est bon. Non, parce qu'il faut que je vous explique, on est arrivé en vélo, donc avec des chaussures de vélo qui ne sont pas exactement adaptées aux cailloux, au sable et aux rochers. Alors un peu plus loin, donc on a Saint-Malo. Je vais presque dire qu'il faut être un peu corsaire aussi dans le domaine de l'écologie pour y arriver.
J'ai découvert depuis peu de temps, grâce au maire de Brest, que j'avais des origines finistériennes. Je ne connaissais pas mes origines bretonnes, puisque j'avais une zone d'ombre sur les origines du côté de ma mère. Et j'ai découvert par là même que dans mes ascendants, j'ai des corsaires. Là, maintenant, je peux lever la tête et regarder l'horizon breton avec une certaine assurance.
Alors, on n'a pas marché sur un croissant de lune, on a simplement marché sur le sable grâce à Saint Léonore, qui est le saint local qui donna son nom à Saint-Lunaire. Il est vilain ? Non, il est vilaine. Et alors, le prétexte, ça a été quand même ce livre qui est sorti avec Frédéric Lenoir et Nicolas Hulot, D'un monde à l'autre, le temps des consciences, aux éditions Fayard. Mais c'était aussi donc entre deux confinements, donc il y a un mois, et puis le plaisir de retrouver un copain de 35 ans qui débuta à France Inter, qui n'était pas du tout écologiste, d'ailleurs il le dit à cette époque. Et nous sommes alors face à l'océan, face donc à toutes ces mers qui ont la gentillesse de nous fournir 50% de notre oxygène sur cette plage de Saint-Lunaire, cette plage de Saint-Lunaire en demi-lune.
Le sable sur lequel on marche, quelques grains près, est le même que celui avec lequel je jouais quand j'étais gamin. C'est une petite Madeleine de Proust à moi, c'est-à-dire dans un monde où tout bouge, tout change, il y a au moins un lieu pour lequel mes repères n'ont pas changé, c'est cette grande plage de Saint-Lunaire. Une espèce de permanence qui rassure, qui relie, dont je ne me lasse pas parce que j'aime évidemment le spectacle de la mer. Mais je trouve qu'il y a une caractéristique de la Manche. Le paysage côté mer ne cesse de changer avec l'alternance des marais. Et cette horloge décalée des marais qui se décale chaque jour de presque 20 minutes ajoute une espèce de confusion magnifique dans l'esprit. Voilà. Ici, on vit avec deux horloges, l'horloge traditionnelle et l'horloge des marais, parce qu'en fonction de la hauteur des marais, on va décider d'une activité ou pas.
Il y a la partie visible et aussi toujours la partie invisible, on va dire, du monde. Pour vous, comment ça se traduit, ça ?
Aujourd'hui, simplement l'éclosion d'une rose, le spectacle d'une araignée tissant dans le vent et dans la brine sa toile, m'émerveille autant que d'avoir nagé presque avec une baleine. Et je me dis simplement, pourquoi est-ce que la beauté est présente partout dans la nature ? Pourquoi c'est un langage universel ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette beauté ? Est-ce que c'est ça qui nous relie justement avec l'indicible, avec l'invisible ? Cette beauté, elle doit nous interpeller et elle est un guide. Et elle est aussi et surtout une pourvoyeuse infinie d'émotions, d'émerveillement et de joie. De réserver la nature, la beauté de la nature à quelques-uns, ça aussi c'est une injustice. Et il faut donner accès à cette beauté par l'éducation, parce que parfois il faut tourner le regard vers cela. Et c'est aussi une des choses, moi, qui m'afflige. C'est de ne voir que le monde réel qu'à travers les écrans et le virtuel.
Alors, attends, ce point qui est là. Souplesse de jeune homme qui enjambe merveilleusement le petit rue. Waouh ! Alors là, on est rentré dans une petite crique. Donc évidemment, tout ce sable vient du granit avec des millions d'années au compteur.
En même temps, ça permet simplement de voir que même ici en Bretagne, la côte est attaquée. Là, vous avez des blocs de granit. On voit à certaines couleurs sur le rocher qu'elles se sont détachées il n'y a pas si longtemps que ça, parce que ça fait partie des phénomènes plus ou moins visibles, ce qu'on appelle le recul du trait de côte. Mais même les côtes nord-bretonnes et même les côtes solides de granit n'échappent pas à l'assaut de la mer.
Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un immense désarroi, quoi. Et en même temps, une volonté de sens qui sont derrière.
L'un va avec l'autre. C'est parce qu'il y a ce désarroi, cette perte de repères, de sens, de perspective, qu'il y a aussi cette quête de sens qui est en train de s'exprimer. C'est vrai qu'il y a une promesse qui s'était faite au fil du temps avec, je dirais, ce couple qui semblait indissociable, c'est-à-dire avenir et progrès. Et on a toujours des résidus de cette conviction que demain serait toujours mieux qu'aujourd'hui, et que le progrès était un processus irréversible, et que la science, la technologie trouveraient toujours remède aux difficultés que nous rencontrions. Et en réalité, cette marche triomphante, elle a maintenant un peu des allures de malentendu.
C'est pour ça que Edgar Morin, que l'on aime beaucoup, disait quand même très joliment, nous sommes technologiquement triomphants et culturellement défaillants.
Cette phrase qu'il faut mettre en confrontation avec la phrase d'Einstein que nous avons mis aussi en exergue de notre livre, qui dit « Notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions », que ce soit celle d'Edgar Morin ou d'Albert Einstein, elle est très caractéristique effectivement de la situation. C'est-à-dire qu'il y a un côté angoissant, c'est la confusion des intentions, la perte de sens, et en même temps il y a quelque chose de rassurant, parce que il ne faut pas tout jeter avec l'eau du bain, c'est la profusion des moyens.
Bien sûr.
Encore faut-il que ces moyens aient une utilité et qu'ils soient bien dédiés à ce qui devrait faire converger toutes nos énergies, c'est-à-dire l'amélioration de la condition humaine. Et donc cette analyse-là, elle est centrale. Comment redonner notamment à nos sociétés un espace, un lieu, un temps de réflexion, de prospective et d'évaluation.
C'est pour ça qu'avec Dominique Bourg, vous aviez pensé donc à cette chambre du temps long.
Oui, alors c'est une piste parmi d'autres. Il faut travailler sur cette démocratie-là pour qu'elle puisse avoir deux degrés de lecture. Une qui fonctionne plutôt pas mal dans nos sociétés, c'est-à-dire le court terme. Dès qu'il y a un phénomène, une inondation, un aléa, un événement, une crise, on réagit relativement vite. Bien, je n'en sais rien. Par contre, il faut absolument scinder les deux approches et avoir un endroit posé, documenté, apaisé, où on mêle la diversité de notre société pour construire le futur, et encore une fois, avec un esprit critique pour corriger nos erreurs, puisque de toute façon, par définition, nous commettons des erreurs, Mais une erreur, on grandit dessus si effectivement on la reconnaît et qu'on en tire des leçons. En revanche, quand on s'acharne et qu'on ne regarde pas la cause des difficultés dans lesquelles nous sommes, évidemment, ça devient une espèce d'entêtement qui est très nocif sur le futur.
Maintenant, on est en circuit fermé, c'est-à-dire que c'est la croissance quasiment pour la croissance. Et on se rend bien compte qu'il y a quand même un pan entier de l'économie financière qui marche, mais absolument toute seule, comme un monde parallèle.
C'est un sujet important. Important d'abord de rappeler que le système monétaire, l'argent, c'est un stratagème, mais ce n'est pas une loi universelle. Et que c'est un mode de fonctionnement qu'a produit la société. Tout ça pour rappeler que est-ce que c'est immuable ? Est-ce qu'on peut le faire changer ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant à se dire que parfois on hésite à faire tourner la planche à billets pour soulager la précarité, la souffrance, la détresse des plus faibles, et puis que tout d'un coup, un peu comme par miracle, quand la menace n'est pas une personne et notamment les puissants, on n'hésite pas à sortir de l'orthodoxie financière. Donc on pose la question, pourquoi on le fait dans un cas, on ne le fait pas dans l'autre ? Se dire que parfois on va laisser des gens crever de faim, simplement parce qu'il n'y a pas assez d'argent. L'argent, encore une fois, c'est un moyen et il faut se poser cette question et ouvrir le débat des monnaies complémentaires, de la dette, de la volonté de faire revenir dans le périmètre de l'économie réelle et de la solidarité toute cette économie parallèle, cette économie virtuelle, mais qui s'est organisée pour échapper à l'impôt, à la solidarité. Je parle notamment, évidemment, de la finance spéculative qui, avec beaucoup d'ingéniosité mais peu de moralité, s'est organisée pour échapper au prélèvement.
Marc, ta banque fait des bénéfices et toi, tu licencies. Tu vis ça comment ?
La banque est en train de couler. Il a fallu la sauver, il a fallu licencier et sauver 100 000 emplois devant le monde.
Pas à moi, Marc. Ça fait trop longtemps que j'entends ça. Vous saignez les gens trois fois. Un, la bourse veut du sang, on délocalise, le travailleur est au chômage. Deux, vous les saignez comme clients. Trois, avec la dette en Europe, vous mettez les États à genoux, et c'est le citoyen qu'on saigne. Et comme le travailleur, le client et le citoyen, c'est le même mec, vous les baisez trois fois.
Alors, est-ce qu'on a vraiment envie de changer ce système-là aujourd'hui ?
C'est l'indice premier pour savoir si vraiment on s'attaque à la racine des choses. Parce que tant qu'on s'accommodera d'un système où les plus puissants se sont organisés pour échapper à la solidarité et donc qu'on condamnera le Nord à l'austérité et le Sud à la misère, tant qu'on n'aura pas une volonté universelle et européenne, pour ne parler que de notre espace géographique, que de remettre dans ce périmètre, de faire en sorte que chacun soit mis à contribution et que chaque production de richesse, chaque bénéfice soit soumis à la solidarité et de mettre fin aux paradis fiscaux, y compris dans nos frontières européennes, à l'optimisation fiscale, à l'évasion fiscale, eh bien on ira toujours chercher l'argent chez les mêmes, c'est-à-dire soit chez les classes moyennes, soit dans les petites et les moyennes entreprises. Et les marges de manœuvre des politiques seront toujours contraintes, donc ils seront toujours obligés de faire des promesses qui ne pourront pas tenir, et nous aurons cette défiance entre le citoyen et les politiques qui, quelque part, sapent les bases de la démocratie.
Et là, regardez, là on a des algues, on a une laisse de mer que renifle d'ailleurs votre chien, mais c'est aussi donc peut-être des ressources, et même sûrement d'ailleurs des ressources déjà d'aujourd'hui et de demain.
Mais déjà sans attendre demain, quand on réalise en termes de pharmacie, en termes de médecine, en termes alimentaires, tout simplement en termes d'équilibre écologique, tout ce que les économistes appellent, j'aime pas trop cette expression, les services écosystémiques qu'aucune économie ne serait en mesure de se payer, dont bénéficie l'humanité, ouais. Voilà, et que très probablement, notamment vous citez les algues, quand on voit les promesses que ce monde des algues fait peser sur l'humanité en termes notamment évidemment de ressources alimentaires, mais pas simplement. Aujourd'hui, on voit bien que la culture d'algues est une manière notamment de se substituer au plastique, entre autres promesses du futur. Donc, toutes les clés pour franchir les aléas du siècle sont dans la biodiversité, bien entendu. Et on découvre de jour en jour que, comme le dit ce spécialiste, la nature est high-tech et que plus nous saurons l'observer et parfois la copier, la mimer ou s'en inspirer tout en la respectant, plus nous ouvrirons des horizons heureux.
Alors, le temps de récupérer Onaï, le chien qui fait à peu près ce qu'il veut sur la plage, et on y retourne dans notre balade.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part, être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Et des oiseaux de passage, ils savent où sont leurs nids, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, être né quelque part, c'est partir quand on veut, revenir quand on part.
Les trottoirs de Manille à Saint-Lunaire, du Tarn jusqu'à Vladivostok, c'était le forestier, bien sûr, né quelque part.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
CO2, en amour. Denis Chessou.
Bon, comme vous y allez, Jean-Paul. Mais comme vous y allez. Donc, on va poursuivre cette balade, vous l'avez très bien compris. Il y a pas longtemps, d'ailleurs, un documentaire bien fait sur la 5, qui pouvait apparaître à charge sur la Bretagne, mais qui a été réalisé, en fait, par des amoureux de la Bretagne. Donc, il y avait des images assez superbes, avec des vérités cruelles, avec quand même cette notion de changement. Car nous sommes, vous le savez, dans une société aujourd'hui de conséquences, de réparations, et comment s'extraire de cette dynamique, on va dire, qui nous échappe et un système qui tourne sur et pour lui-même, en nous menant quand même gentiment à une impasse. On continue donc ce dialogue avec Nicolas Hulot.
Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé
Nicolas Hulot à la transition écologique.
Le tapis vert pour Nicolas Hulot, applaudi dès son arrivée par le personnel du ministère de l'écologie. Courtisé par Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, tous souhaitent le faire rentrer au gouvernement. À chaque fois, il refuse, jusqu'à aujourd'hui, une arrivée saluée par les écologistes.
J'avais pas grand-chose à gagner.
Non, pas vraiment.
Aller dans cette expérience-là.
Vous avez une très jolie phrase.
Mais à gagner de l'expérience, parce que comme dans tout, même si ça ne s'est pas terminé comme je le souhaitais, ça m'a permis, avec un peu de recul, de voir aussi dans notre démocratie ce qui ne fonctionne pas et peut-être d'en tirer des leçons et des enseignements. Alors
justement, qu'est-ce qui manque ? Pourquoi effectivement ça ne fonctionne pas dans ce fleuve en crue, parce que vous le décrivez comme ça, donc ce monde politique, c'est un fleuve en crue où il faut sans arrêt être sur les urgences, il faut essayer sans arrêt de se parer face aux différents coups qui peuvent arriver, etc. Mais pourquoi ça fonctionne pas aussi bien que ça, quoi ?
Alors, bon, dès lors que vous rentrez dans la sphère politique et principalement gouvernementale, effectivement, vous êtes happé et vous êtes submergé par des événements, des décisions ou des sujets très complexes et variés, et que la part consacrée à la réflexion, à la prospective, est excessivement limitée, pour ne pas dire pratiquement réduite à zéro. Donc la démocratie, elle est submergée en permanence, et l'exercice du pouvoir se fait en permanence dans l'urgence. La deuxième chose, c'est de découvrir ou de confirmer que les politiques auxquels nous sommes censés avoir confié le pouvoir au gré des élections, en réalité, ont été dépossédés de ce pouvoir au fil du temps, notamment par ce qu'on appelle les lobbies, par une administration qui est très lourde, une technocratie qui est très lourde, mais aussi, disons-le, par les injonctions contradictoires que chaque politique reçoit chaque matin, puisqu'aujourd'hui, dans un monde où chacun peut exprimer ses propres intérêts personnels à travers les réseaux sociaux, eh bien, vous êtes en permanence au carrefour de ces injonctions contradictoires. Et les satisfaire toutes, c'est impossible. Chaque catégorie socioprofessionnelle, aujourd'hui, a une possibilité, quelque part, de paralyser une commune, un pays, pour faire valoir ses revendications. Donc ça, c'est important. Et puis la confrontation du court terme et du long terme.
La tragédie des horizons.
La tragédie des horizons, c'est-à-dire que si vous voulez privilégier le long terme, bah, vous décidez de mettre un prix au carbone. Si vous voulez privilégier le court terme, vous baissez le prix de l'essence. Je te donne cet exemple caractéristique. Non, et puis, dernière chose, le fait qu'on entretient un malentendu général en faisant croire qu'on a les moyens de ses objectifs alors qu'on ne les a pas, parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a laissé un pan de l'économie échapper aux États. Et donc, en réalité, on n'a pas de marge de manœuvre, sauf, comme on vient de le faire pour la crise sanitaire, à sortir de l'orthodoxie financière, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire tourner la planche à billets, mais on n'a pas de marge de manœuvre aussi, parce que, justement, on n'a pas fait en sorte de mettre des outils pour mettre fin à l'évasion ou à l'optimisation fiscale, ce qui redonnerait une bouffée d'air.
L'État, c'est devenu une misère. Une vieille godasse qui prend l'autre partout. Il n'y a plus d'argent et plus de puissance.
Il nous reste quelques prérogatives.
Oui, oui, du pouvoir, il y en a, oui, je dis pas, oui. Mais c'est quoi du pouvoir sans la puissance d'agir? Qu'est-ce que ça crée comme légitimité? On amuse la galerie avec nos réformes structurelles, nos lois. Et d'ailleurs, tu sais très bien, aussi bien que moi, que 2 décrets sur 3 sont étouffés dans l'œuf. Et quand il y en a un qui passe au travers, il reste quoi à vivre, hein? Petit amendement, petite censure au Conseil d'État.
J'ai un espoir absolu dans ce que l'Europe peut faire. Pour moi, c'est la bonne échelle géopolitique pour faire émerger un modèle compatible avec les enjeux écologiques, sociaux et économiques. Encore faut-il partager une vision à 27. Le problème de l'Europe, c'est qu'avec sa règle de fonctionnement à l'unanimité, évidemment, on a trop peu de marge de manœuvre. Mais créons un groupe, encore une fois, d'acteurs principaux, mais fixons-nous des règles communes pour faire une première matrice du modèle économique qui va bien au XXIe siècle. C'est ça dont on attend de l'Europe. Moi, j'attends de l'Europe, encore une fois, qu'elle sorte des sentiers battus, qu'elle fasse de la solidarité la boussole de son modèle économique, solidarité avec le vivant, solidarité évidemment entre les riches et les pauvres et les faibles et les puissants, mais qu'elle s'en donne les moyens et qu'on arrête, encore une fois, de se fixer des objectifs dont on sait qu'on ne pourra pas les réaliser, tout simplement, encore une fois, parce qu'on ne se donne pas les marges de manœuvre.
Alors, il y a aussi un mot extrêmement important, Nicolas Hulot, c'est le mot « humiliation ». Et ça, pour bien comprendre aussi comment fonctionnent les individus et aussi fonctionnent les peuples, il faut peut-être le mettre un peu en avant, ce mot-là.
J'essaye d'expliquer qu'il y a un paramètre qui change la donne des relations géopolitiques et qui crée l'impératif de solidarité comme une contrainte physique avant d'être une contrainte morale. Et j'essaie simplement d'expliquer que, par le succès de la technologie, en l'espace de quelques décennies, le monde s'est connecté, principalement par Internet, la télévision, la mobilité. Qu'est-ce que cette connexion soudaine du monde a généré? Elle a fait en sorte que les exclus, soudainement, aient vu sur les inclus. Et elle a permis à chacune et à chacun de pouvoir comparer sa situation, de se rendre compte un peu brutalement que selon l'endroit où on était né et la famille dans laquelle on avait grandi, ça comptait pour 70 ou 80% dans ses chances et dans son potentiel de vie, dans son déterminisme, pour dire les choses plus clairement. Tant que ça ne se savait pas, chacun s'accommodait de sa situation et mettait ça sur le compte du destin, de la fatalité. Mais j'explique que quand maintenant, où l'information a diffusé, où il y a cette confrontation à l'exclusion, et c'est Patrick Vivray qui m'en a fait la démonstration, on ajoute un élément explosif qui est l'humiliation. Et l'humiliation, c'est une souffrance qui n'est pas tenable. Quand une femme découvre que dans son village, on n'a pas été capable d'amener un traitement antipaludéen pour sauver son fils simplement parce qu'elle est née du mauvais côté d'un fleuve, d'une rivière ou d'une frontière, tant qu'elle ne le savait pas, elle s'en accommodait avec souffrance, mais voilà, elle respectait ce destin. Quand elle sait que dans son village, par la mondialisation, on a amené une bouteille de soda qui est en vente dans le village, mais pas ce traitement antipaludéen, eh bien, c'est ce qui explique l'état de tension du monde où ces inégalités ne sont plus supportables.
Quelle est votre promesse de l'aube, vous, Nicolas Hulot, ici ? C'est-à-dire pour retrouver un peu Romain Gary que nous aimons tous les deux, mais...
Ah bah, la phrase de Romain Gary, qui est pour moi une des belles phrases de la littérature dans La promesse de l'aube, qui dit « Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne pourra plus jamais tenir ». Quelque part, je l'ai connu ici, cette indolence, cette insouciance, cet amour maternel et même de mes parents, quand j'étais sur cette plage totalement insouciant, léger, où je pensais que la vie était un long fleuve tranquille. Voilà, mais malheureusement, cette illusion ou ce rêve, il ne dure pas longtemps et que plus tard, on peut être confronté à la réalité, mieux c'est. Mais c'est vrai que souvent d'ailleurs, quand je dis que je ne suis pas né écologiste, quand je ne l'étais pas, j'étais peut-être dans certains comportements très critiquables, mais j'étais insouciant et léger, ça c'est vertu aussi. Aujourd'hui, du coup, je porte une gravité qui parfois est un peu lourde à conserver.
Et là, on voit ces nuages, là, ces merveilleux nuages qui sont nés de cet océan, peut-être de cette Manche aussi, qui arrivent vers nous. Et derrière eux, bah, y a toujours aussi cet horizon qui va se dégager. Et c'est peut-être par là aussi qu'il faut trouver le petit chat de l'aiguille, quoi.
Je pense toujours à cette jolie phrase à propos de la mer, qui dit « La mer joint les pays qu'elle sépare ». Quand je regarde la mer, et je la regarde à longueur de journée, ce que j'aime dans l'océan, c'est cet horizon libre, et de me dire que, ben, au bout de cet océan, il y a l'Amérique, il y a l'Asie, il y a l'Australie, il y a le pôle Nord, il y a le pôle Sud, et qu'il y a une voie d'accès, et une voie d'accès aux pays lointains. Je sais pas, c'est une promesse de liberté, l'océan. Puis, il y a ce que l'océan ici m'offre régulièrement. Moi, j'ai découvert, par exemple, depuis que j'habite ici, qu'il y a une colonie de dauphins. Ben, mon grand plaisir, moi qui ai eu la chance avec Ushuaïa, d'avoir des rencontres marines magnifiques.
Des baleines, des dauphins, des baleines, des tortues.
Mais même ici, rien que de voir l'aileron d'un dauphin, me comble de joie. Et alors évidemment, comme ça arrive de temps en temps, quand je me retrouve avec une vingtaine ou une trentaine d'entre eux qui me font des sauts autour du bateau...
Vous n'en parlez pas de quand voudrais, même, non
je, non, mais je non, voudrais non. Que chacun ait cette possibilité, parce qu'on en apprend tellement plus. Et puis, me semble-t-il, c'est un plaisir qui n'a pas de prix, quoi. Il est... comment dire, inquantifiable.
Bon, on va se quitter là maintenant, Nicolas. Moi, je vais repartir. Je vais vous laisser donc avec vos embruns que nous allons partager.
Moi, je vous laisse repartir. Je peux le témoigner avec votre vélo de course pour aller reprendre le train à Saint-Malo. Donc, je peux témoigner que j'ai vu arriver Denis Chessou en tenue de cycliste. J'ai cru que c'était un concurrent perdu du Tour de France qui s'était égaré. Non, c'était bien Denis Chessou.
Non, j'ai pas l'âge pour ça. Et puis, vous voyez, j'ai pas de publicité donc sur le maillot. Donc c'est ça aussi. Bon, à bientôt, cher Nicolas.
Merci, Denis. À bientôt. Bon retour. Et merci pour cette balade sur la plage.
Alors,
Alors ça va, rassurez-vous, l'empreinte carbone n'était pas trop détestable pour ce reportage. En tout cas, se résigner jamais. Et si vous voulez, si on peut prendre un exemple, entre le plaisir immédiat de fumer une cigarette, et n'y voyez aucune stigmatisation, et la joie de s'épargner une grande souffrance à venir, en général, l'être humain, il hésite très peu, quoi. C'est très symptomatique de la pression de l'instant présent et de la satisfaction immédiate. Et on retrouve ça donc au niveau politique et donc aussi géopolitique. Alors c'est un peu compliqué pour l'homme occidental de rentrer dans ce qu'il ne sait pas bien faire, c'est-à-dire l'humilité, la sobriété, le partage, le mano à mano avec la nature, parce que sinon elle nous laissera tomber. Et c'est tout ça d'ailleurs qui est très très bien raconté donc dans cet ouvrage, d'un monde à l'autre, donc Le Temps des Consciences aux éditions Fayard, donc ouvrage signé avec ce dialogue entre Nicolas Hulot et Frédéric Lenoir. Je vous le recommande, il marche bien de toute façon, mais voilà, donc c'est quand même bien de le rappeler. Un grand merci à Christian Gratalon à la technique aujourd'hui, à Thomas Lehété, à Xavier Pessugia qui a choisi les petits extraits de films, qui a choisi comme d'habitude les musiques, qui a colorisé donc ce reportage. Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites. La semaine prochaine, ça va être encore différent. Alors là, on sera très parisien, parce que donc ça va être les animaux qui ont la parole très régulièrement dans cette émission, mais ce sera celle assez facétieuse et aussi profonde de l'écrivain donc Jean-Louis Fournier. Et puis aussi, il y aura des nouvelles d'un petit centre de soins dans les Alpes. Le Twitter, Denis Chessoux, tout attaché, les podcasts. Alors allez-y, n'hésitez pas. Donc La Tulu pour La Tulu mon petit loup et CO2 mon amour. Les podcasts sont à votre disposition. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, bien sûr, un excellent week-end. Soleil sur vous tous, comme on dit. Portez-vous bien, évidemment. Prenez soin de vous et aussi des autres.